Pensez-vous que les anciens dirigeants haïtiens répondront à votre appel de proposition de solution pour les crises que traverse Haïti présentement? Oh, écoute, mon ami. Écoute, mon ami. Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Hein. Tout ce que j'ai fait, hein, c'est comme lancer une bouteille à la mer. Hein. Tout ce que j'ai fait, c'est comme lancer une bouteille à la mer. Donc, pour de vrai, pour de vrai. Pensez-vous que ces anciens dirigeants répondront à votre appel pour pouvoir offrir une solution ou des solutions aux crises qui traversent Haïti présentement? Comme je vous le dis, hein, écoute, écoute mon ami, hein, et tout ce que j'essaie de faire, hein, tout ce que j'ai essayé de faire, hein, en lançant l'appel aux anciens dirigeants d'Haïti, aux anciens présidents d'Haïti, hein, vous comprenez, hein, aux anciens premiers ministres, hein, vous comprenez? Aux premières dames, aux anciennes premières dames d'Haïti. Hein? Tout ce que j'ai fait, hein, c'est comme lancer une bouteille à la mer. Ah, vous avez lancé une bouteille à la mer? Oh, bien sûr, mon ami. Bien sûr, j'essaye de lancer une bouteille à la mer, hein, dans l'espoir que quelqu'un puisse trouver cette bouteille, hein, et découvrir ce que j'ai essayé de passer comme message. Hein? Vous comprenez? Hein? Quand nous cherchons des solutions, hein, il faut pas se concentrer sur soi-même. Hein? Vous comprenez, hein? Moi, j'ai fait l'appel, hein? J'ai fait simplement un appel aux anciens dirigeants du pays pour pouvoir offrir des solutions aux diverses crises qui traversent le pays, qui secouent le pays actuellement et qui met en danger la sécurité, la souveraineté, hein? Vous comprenez, hein? Vous comprenez, hein? Tout ça, c'est juste des appels, hein. C'est juste un appel au secours, hein. Parce que quand vous comprenez, hein. D'ailleurs, je me souviens bien, hein. Je me souviens bien. Hein. Je me souviens d'un ancien professeur que j'avais, hein, quand j'étudiais en sciences économiques à la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, hein. Quand j'étudiais là, j'avais un professeur de méthodologie, hein. Le professeur de méthodologie, hein, c'était Monsieur Serge Petitfrère. Monsieur Serge Petitfrère nous avait dit, parmi les nombreuses discussions qu'on a eues avec lui, hein, d'ailleurs vous comprenez, hein, alors on passait le temps, hein, quand il terminait le cours, quand il terminait le cours, alors on se retrouvait souvent dans la cour, hein, vous comprenez, hein, sur la terrasse, alors on lui posait nos questions, hein. On l'arrêtait pour lui poser des questions. Alors, je me souviens qu'est-ce qu'il nous avait dit, hein. Il nous avait dit, moi et plusieurs autres camarades, il nous avait dit, il n'arrivait pas à comprendre, parce qu'il a été ministre de l'éducation, hein, de l'éducation nationale pendant quelques mois. Il nous avait dit qu'il n'arrivait pas à s'expliquer à lui-même. Il pensait que quand on était ministre, on avait beaucoup de pouvoir. Lui, il nous avait dit, hein, pendant longtemps, il pensait que quelqu'un qui est nommé ministre était quelqu'un qui venait d'avoir du pouvoir. Vous comprenez, hein? Il avait une vision du pouvoir, hein. Il nous expliquait que sa vision du pouvoir était lorsqu'il avait un poste ministériel ou bien lorsqu'il avait un... vous comprenez, hein, quand il était devenu responsable, c'est à ce moment-là qu'il pensait qu'il allait avoir du pouvoir. Hein. Alors, il s'est rendu compte que pendant le temps qu'il était ministre de l'Éducation, Monsieur Serge Petitfrère, il faut faire la distinction entre Roger Petitfrère, qui était doyen à la faculté de l'école normale supérieure, qui était également mon professeur, mais également M. Serge Petitfrère, qui était professeur de méthodologie pour nous en sciences économiques à la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince. La FDSE. Alors voilà, faculté de droit et des sciences économiques. Alors, il nous disait, il nous expliquait que sa vision qu'il avait du pouvoir, c'était quand il était ministre, il pensait que c'est à ce moment-là qu'il allait avoir du pouvoir. Et quand il a été démis de ses fonctions de ministre, quand il n'était plus ministre, il s'est rendu compte que c'est quand il avait laissé le poste de ministre qu'il avait du pouvoir. Vous comprenez, hein? Vous comprenez, hein? Alors, il croyait que lui, dans sa tête, que c'était quand il allait avoir le poste, alors c'était avant de devenir ministre, vous comprenez, hein? Alors, avant de devenir ministre, il pensait que c'est quand il aura, ou bien quand il aurait, lorsqu'il aurait un poste de ministre, qu'il serait, hein, qu'il aurait du pouvoir. Mais dans les faits, ce qu'il a découvert, et c'est cette expérience-là qu'il avait partagée avec nous, hein, il nous avait fait comprendre que c'était quand il n'était plus ministre qu'il s'était rendu compte qu'il avait du pouvoir. Mais au moment qu'il était ministre, il n'avait pas de pouvoir. Pourquoi? Parce que la structure mange les hommes politiques. La structure mange la structure du ministère, les structures, disons de préférence, les structures au sein des ministères. Et tout l'engrenage du système politique haïtien fait en sorte que le ministre, quand il est nommé ministre, il n'a aucun pouvoir. Premièrement, il lui faut du temps pour découvrir son ministère. Et ensuite, ça lui prend encore du temps pour découvrir les rouages du ministère et découvrir les pouvoirs qu'il y a au sein de ce ministère-là. Alors, il s'était rendu compte que c'était quand il n'était plus ministre que c'est à ce moment-là que tout le monde l'appelait ministre. Alors, quand il était ministre, d'ailleurs, ses collègues l'appelaient par son nom. Ah, Serge, comment allez-vous? Ah, monsieur Serge, comment allez-vous? Ah, vous comprenez, hein? Alors, quand vous avez du pouvoir, vous n'avez pas de pouvoir en Haïti. Pourquoi? Parce que le pouvoir en Haïti a sa propre réalité. Donc, il y a des réalités du pouvoir en Haïti. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les réalités du pouvoir en Haïti? Les réalités du pouvoir en Haïti font en sorte que, des fois, c'est quelqu'un qui vous a placé comme ministre. Des fois, c'est des amis qui vous appellent et qui vous proposent un poste de ministre, qui vous appellent, qui vous donnent un poste de premier ministre. Alors, vous n'avez pas le pouvoir. Alors, celui qui vous place au pouvoir a plus de pouvoir que vous. Deuxièmement, hein, les capacités que vous avez pour faire des changements, vous n'en avez pas beaucoup, parce que ça vous prend une période de temps pour découvrir le pouvoir, pour découvrir le ministère. Et étant donné que vous êtes arrivé au pouvoir, quand vous avez le pouvoir, quand on vous appelle, on vous nomme ministre, on vous nomme premier ministre, on vous nomme secrétaire d'État, on vous nomme directeur général d'un département, directeur général d'un ministère, etc., etc. Vous n'avez pas de pouvoir. Ce sont ceux qui vous placent au pouvoir qui ont de pouvoir. Donc, la réalité du pouvoir en Haïti, hein, ça fait en sorte que il y a du monde qui place du monde dans le pouvoir. Parce qu'ils sont au pouvoir, ils peuvent vous amener au pouvoir. Mais il y a une autre réalité encore du pouvoir en Haïti. Il y a une autre réalité. La réalité, hein, l'autre réalité du pouvoir en Haïti, hein, c'est que le plus souvent, quand vous avez le pouvoir, vous êtes tellement mêlé dans des affaires, vous êtes tellement pris par votre travail, vous n'avez pas le temps d'exercer du pouvoir. Vous comprenez, hein? Vous ne pouvez pas placer quelqu'un dans le pouvoir. Vous ne pouvez pas donner du pouvoir. Vous comprenez, hein? Parce que on vous a conditionné pour exécuter des rôles. Alors, vous exécutez des rôles. Ah, vous exécutez des rôles, vous n'avez pas de pouvoir. Bien sûr, mon ami. Quand vous êtes au pouvoir, vous n'avez pas de pouvoir, hein? Parce que vous ne pouvez pas appeler quelqu'un pour lui dire placer quelqu'un à tel poste. Parce que vous avez peur, vous comprenez, hein? Vous voulez pas entraver un processus. Vous ne voulez pas non plus vous empiéter sur les autres. Vous ne voulez pas non plus avoir des devoirs envers d'autres personnes. Alors vous faites toute votre attention pour ne pas créer des conflits d'intérêts avec d'autres personnes. Alors voilà la réalité du pouvoir en Haïti. Hein. Alors quand vous avez le pouvoir en Haïti, vous n'avez pas de pouvoir. Mais sauf que vous avez l'opportunité de faire des expériences dans le pouvoir. Vous avez l'expérience du pouvoir. Vous allez tenter de faire des choses, vous allez réaliser des choses. Vous allez échouer dans la réalisation de certaines choses. Donc vous avez deux types ou trois types d'expériences. Donc vous avez l'expérience de réussir, vous avez l'expérience d'échouer dans certaines choses. Alors voilà les conditions du pouvoir, les conditions dans lesquelles vous exercez votre pouvoir. C'est que vous n'avez pas de pouvoir. Parce que vous ne pouvez pas placer quelqu'un à n'importe quel poste dans le pays, vous comprenez? Vous ne pouvez pas placer n'importe qui dans certaines fonctions. De plus, et ça c'est le plus important, hein, d'ailleurs, c'est le plus important dans toute la réalité du pouvoir en Haïti. Et dans tous les pays également d'Afrique, hein, et dans tous les pays du monde, hein. Parce que ça, c'est quasiment universel, hein. C'est presque universel un peu partout. Alors, vous comprenez cette situation. Alors, quand vous êtes dans le pouvoir, vous n'avez pas de pouvoir. Parce que vous avez des règles à suivre. Vous avez des principes à respecter. Vous ne pouvez pas demander des faveurs. Vous ne pouvez pas offrir des faveurs. Parce que vous êtes ciblé par tout le monde. Alors, tout le monde vous surveille. Alors, vous comprenez, hein. Alors, quand vous êtes au pouvoir, c'est comme si vous pensez que vous avez du pouvoir. Mais vous n'avez pas de pouvoir. Vous n'avez pas de pouvoir. Alors, vous avez l'opportunité. La chance que vous avez, c'est que vous avez l'expérience, vous avez la possibilité d'expérimenter des choses, c'est-à-dire d'essayer et d'échouer, de réussir et d'échouer. Voilà, vous avez la chance d'échouer, vous avez la chance de réaliser certaines choses. Mais quand vous aurez le pouvoir, c'est quand vous serez plus au pouvoir. À ce moment-là, d'ailleurs, partout où vous allez passer, hein, on va vous appeler par votre titre. Alors, vous serez toujours un ministre. Quand on vous croise, vous étiez premier ministre. C'est à ce moment-là qu'on va vous appeler monsieur le premier ministre. Mais pendant que vous êtes au pouvoir, vous ne pouvez pas découvrir quelle capacité que vous avez. Quel pouvoir que vous avez réellement, parce que le pouvoir est tellement diffus, vous comprenez, hein? Le pouvoir est diffus, hein? Alors donc, vous êtes au pouvoir, mais vous vous rendez pas compte à quel niveau que vous n'avez pas de pouvoir. Ou bien, c'est quand vous êtes au pouvoir que vous vous rendez compte que vous n'avez aucun pouvoir. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont plus de pouvoir que vous. Hein, la petite secrétaire qui se trouve, alors c'est Léa Cocoyé. Isabelle Wack, Léa Cocoyé. Alors voilà. Alors donc, quand vous êtes au pouvoir, vous n'avez pas de pouvoir parce que vous ne pouvez pas faire et défaire. Et puis, tout ce que vous faites sera sous votre responsabilité. Vous comprenez, hein? Vous comprenez, hein? Alors donc, quand vous n'êtes pas au pouvoir, alors, vous comprenez que je me répète, hein. Je me répète parce que c'est quelque chose de très difficile à saisir. Parce que dites à quelqu'un qui est devenu ministre, qui n'a pas de pouvoir, c'est inconcevable dans sa tête. Il peut pas l'imaginer qu'il n'a pas de pouvoir. Mais quand il aura laissé le pouvoir, c'est à ce moment-là qu'il va découvrir qu'il a beaucoup de pouvoir. Alors, quand vous étiez ministre, on va vous appeler monsieur le ministre. Hein, quand vous n'êtes plus au pouvoir, on va vous appeler monsieur le ministre. Partout où vous allez passer. Vous étiez premier ministre, partout où vous allez passer, on va vous appeler monsieur le premier ministre. Vous étiez première dame du pays, partout où vous allez passer, on va vous appeler madame la première dame. Hein, vous comprenez, hein, vous comprenez, lady. Alors vous êtes une lady. Alors donc vous êtes une première dame. Et c'est quand vous n'êtes pas au pouvoir que vous allez découvrir que vous avez beaucoup de pouvoir. Parce que vous avez du pouvoir, mais sans responsabilité. Mais quand vous êtes au pouvoir, vous avez pas de pouvoir parce que vous avez peur de vos responsabilités. Parce que vous avez la peur de ne pas faire quelque chose parce que les conséquences reviendront à vous. Alors voilà l'essence de la chose si on veut saisir où est-ce que je vais vous en dire. Ah, vous essayez de nous emmener toujours ailleurs, hein? Ah, bien sûr, mon ami. J'essaie de vous emmener ailleurs pour que vous découvriez quelque chose de plus important, hein. Pourquoi? Mon professeur, Serge Petitfrère, qui a été ministre de l'Éducation nationale pendant un très laps de temps. Pourquoi il a découvert, quand il n'était plus ministre, et c'est à ce moment-là qu'il avait plus de pouvoir. Pourquoi? Parce que quand vous êtes au pouvoir, vous n'avez pas de pouvoir. Tout ce que vous faites sera retenu contre vous. Mais quand vous n'êtes pas au pouvoir, on vous donne le titre et on vous reconnaît un certain pouvoir. Et puisque vous n'avez aucune responsabilité, à ce moment-là, vous pouvez demander n'importe quoi. Vous pouvez placer n'importe qui. Vous pouvez faire et défaire plein de choses. Parce que c'est vous qui avez le pouvoir maintenant. Parce que c'est à ce moment-là, ceux qui vous reconnaissent, ils vont reconnaître que vous aviez le pouvoir et que vous pouvez les recommander. Alors voilà le pouvoir de recommandation. Celui qui n'est plus au pouvoir possède ce qu'on appelle le pouvoir de recommandation. Alors quand vous avez le pouvoir de recommandation, alors à ce moment-là, vous pouvez donner beaucoup de choses à du monde. Alors voilà l'ensemble des choses à saisir. Alors si on a saisi tout ça, si on comprend tout ça, alors on peut passer à l'autre étape. Alors, si on se pose la question, est-ce que le fait de proposer aux anciens dirigeants haïtiens de formuler, de se rencontrer d'abord, voilà l'essence de la chose. Alors, si je leur propose d'intervenir, c'est parce que je sais très bien que, puisqu'ils ont eu l'expérience, dans ce qu'ils ont réalisé, dans ce qu'ils ont échoué. Alors, ils ont ce qu'on appelle de l'expérience politique. Cette expérience politique, positive ou négative, leur donne une capacité à voir un problème sous plusieurs angles et avoir une belle perspective pour résoudre des problèmes. Voilà ce qui est important. Sauf que, et ça c'est l'essence même de la réalité de la politique, c'est que quand quelqu'un a déjà été au pouvoir et qu'il décide de réfléchir sur des problèmes, parce qu'il ne sait jamais, quand vous avez été au pouvoir, vous ne cessez jamais de réfléchir sur les enjeux de votre pays, sur les enjeux qui vous concernent, des enjeux qui ont été très importants pour vous. Alors, vous comprenez, Alors, quand vous prenez les anciens dirigeants d'Haïti, les anciens présidents, quand je parle de Jean-Bertrand Aristide, l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, l'ancien président Joseph-Michel Martelly, quand vous parlez de l'ancien général Raoul Cédras, l'ancien général Erard Abraham, vous comprenez, quand je parle des anciens généraux Prosper Avril, c'était des anciens présidents, des anciens dirigeants du pays. Quand vous avez des anciens présidents comme Joseph-Michel Martelly, comme Jocelyne Privert, quand vous avez Herta Trouillot, quand vous avez des gens comme ça, ils ont une certaine distance par rapport au pouvoir. Et ce sont de gros caractères également. Alors, quand vous avez ces personnes-là, si vous leur proposez de trouver des solutions aux problèmes du pays, ils peuvent aborder toutes les questions de pouvoir en Haïti. Ils peuvent aborder toutes les questions de pouvoir. De plus, ce sont de gros caractères. Ce sont des gens très, vous comprenez, qui ont la capacité à prendre des décisions. Ils ont déjà pris de grandes décisions dans leur vie. Alors, ils peuvent comprendre la réalité de celui qui est au pouvoir présentement. Vous comprenez, Alors, quand vous prenez le premier ministre Ariel, vous essayez de bien saisir, Je suis en train de vous emmener un peu partout, là. De vous tirer par quatre épingles, Alors, j'essaie de vous emmener un peu partout pour pouvoir revenir vers l'essentiel. Alors, voilà. Alors, quand vous avez des gens comme ça, ils étaient déjà dans le pouvoir. Ils connaissent la réalité du pouvoir. Et ils ont vécu également des peurs au pouvoir. Alors, ils peuvent comprendre très bien la réalité que vit présentement le Premier ministre Ariel Henry. Ils peuvent comprendre sa réalité. Ils peuvent lui suggérer des solutions. Ils peuvent l'orienter, ils peuvent l'aider à comprendre sa réalité. D'autant plus qu'il y a l'épée Damoclès qui pèse sur sa tête. Vous comprenez, hein? Parce que, selon les oui-dire, le Premier ministre actuel, Ariel Henry, aurait été parmi ceux qui ont comploté l'assassinat du président Jovenel Moïse. Je suppose qu'il a peur, il peut avoir peur. S'il faisait partie de ce groupe-là. D'ailleurs, on ne peut pas le déterminer, hein. On ne peut pas le savoir. Tout le monde, nous autres aussi, on n'arrête pas de dire des choses là-dessus. Mais on n'a pas de preuves. On ne peut pas prouver par A plus B qu'il faisait partie de ce groupe-là qui ont comploté pour l'assassiner du président. Alors, nous avons un doute. Nous avons ce doute nécessaire et raisonnable. Mais sauf que la réalité du pouvoir, la réalité politique fait en sorte que nous ne pouvons pas nous empêcher de le critiquer, de l'affaiblir. De plus, lui non plus, il ne s'est pas aidé lui-même. Parce qu'il n'a rien fait pour arrêter le banditisme dans le pays. Alors il se trouve qu'actuellement, la réalité du pays fait en sorte qu'il y a des menaces beaucoup plus urgentes. Hein? Il y a beaucoup plus de menaces qui pèsent sur la souveraineté du pays, la sécurité du pays. De telle sorte que il a à plusieurs reprises fait appel à des pays étrangers pour pouvoir organiser des convois d'occupation du pays. Pourquoi il le fait, hein? Il veut tout simplement se retrouver du côté de ceux qui décident au niveau international. Pendant qu'il laisse tomber le secteur national qui serait encore plus important, qui devait être plus important à ses yeux. Alors, il se met du côté de la communauté, d'une certaine communauté internationale, pour empêcher qu'il soit jugé ou bien qu'il soit rejeté par cette communauté internationale qui pourrait le poursuivre et qui pourrait le forcer, à le jeter en prison, à le faire juger au niveau international, si on le trouverait coupable de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Alors, comprenez bien cette situation-là. Alors, il lui faut des interlocuteurs capables de le parler. Alors, les personnes qui sont seulement susceptibles de pouvoir lui parler et de le convaincre de ne pas continuer à s'enliser dans la voie ou dans les voies qu'il choisit, ce sont des anciens dirigeants du pays. Vous comprenez, hein? Les anciens dirigeants du pays, ce sont des gens qui ont l'habitude de prendre des grandes décisions, qui ont été au cœur du pouvoir, qui ont été des dirigeants. Voilà, le terme, c'est qu'ils étaient des dirigeants. Ils dirigeaient, que ce soit la femme de président, que ce soit la femme de premier ministre, que ce soit les premiers ministres, que ce soit les premières dames, que ce soit les présidents, les premiers ministres. Tous ces gens-là, ils connaissent la réalité du pouvoir, ils connaissent toutes les réalités et les rouages du pouvoir. Et compte tenu de leur expérience par rapport à leur réussite et à leur échec, ils sont les bonnes personnes pour pouvoir conseiller et aider le Premier ministre Ariel Henry à prendre des bonnes décisions, sans qu'il soit victime également à son tour. Alors voilà la chose, hein. Voilà l'essence de la chose. Alors voilà, on revient à ce que j'ai appelé tout à l'heure les réalités de la politique. Les réalités de la politique, c'est quoi? En Haïti, hein, ceux qui créent la stabilité, hein, ceux qui a souvent manqué, qui a souvent fait défaut pour la stabilité du pays, c'est qu'il n'y a jamais eu de continuité dans les pouvoirs. Il n'y a pas eu de continuité dans les pouvoirs, dans l'exercice du pouvoir. Les hommes et les femmes qui ont pris le pouvoir en Haïti ne se sont jamais, hein, vous comprenez, hein, ils n'ont jamais assuré la continuité du pouvoir. Pourquoi? Parce que quand ils prennent le pouvoir, ils le prennent pour eux-mêmes et ils gèrent tout seuls. Et ils le font le plus souvent, ils exercent le plus souvent ce pouvoir au détriment des anciens dirigeants du pays. Voilà, hein. Ils se sont toujours opposés à leurs prédécesseurs. Donc, quand vous avez des oppositions tenaces entre les anciens dirigeants et les nouveaux dirigeants, entre les prédécesseurs et les successeurs au pouvoir, le pays n'a jamais assuré la continuité du pouvoir. Alors, quand vous n'avez pas la continuité dans le pouvoir et qu'il n'y a pas des gros groupes, des grands groupes de pouvoir à l'intérieur du pays, il faut le noter, hein. En Haïti, il n'y a pas de groupe influence, de grands groupes influenceurs sur le pouvoir en Haïti. Donc, quand les gens, ils prennent le pouvoir pour eux-mêmes. Et ils dirigent par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Et au détriment de tous les autres, au détriment de ceux qui sont passés de leurs prédécesseurs, et également au détriment de leurs successeurs. Donc, ils se retrouvent de toute façon dans cette condition-là. À prendre le pouvoir que pour eux-mêmes. Ils dirigent le pouvoir par eux-mêmes, pour eux-mêmes et en fonction de eux-mêmes. Ils dirigent jamais avec leurs prédécesseurs ni avec leurs successeurs ou avec leurs potentiels successeurs. Alors disons-le comme ça de préférence. Alors, quand les gens ils prennent le pouvoir et qu'ils ont le pouvoir en Haïti, alors il n'y a personne, il n'y a pas de lien entre les prédécesseurs, ceux qui sont au pouvoir et les potentiels successeurs. Voilà ce qui empêche à la stabilité du pays. Parce que quand on prend le pouvoir, on le prend contre ou par opposition aux autres. Voilà pourquoi il n'y a personne qui arrive à assurer la stabilité du pouvoir. Donc, il n'y a pas toujours une continuité dans le pouvoir. Les gens, ils ne sont plus au pouvoir et ils sont complètement hors du pouvoir. Dans les pays étrangers, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Surtout dans les pays occidentaux, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des grands cabinets d'avocats, des grands cabinets de comptables qui ne cessent de générer des grands conseils d'administration, qui ne cessent des grands groupes de bourgeois ou de capitalistes, des grands groupes de magnats qui gèrent le pouvoir et qui sont toujours prêts à offrir des représentants, à offrir des ministres, à offrir des dignitaires. Voilà ce qui assure la stabilité du pouvoir. Vous comprenez, hein? Je sais que c'est difficile à saisir. C'est très difficile à saisir. Mais sauf qu'en Haïti, nous n'avons pas ça. Alors, quand le gars, il était ministre et il n'est plus ministre, il n'est plus au pouvoir. Alors que dans les pays étrangers, quand le gars était au pouvoir et qu'il n'est plus au pouvoir, leurs successeurs, ceux qui viennent après eux, garde des relations avec eux et il les consulte sur des problèmes et des enjeux qu'on sait que ce sont ces personnes-là qui possèdent l'expertise parce qu'ils sont déjà passés par ces problèmes-là ou bien qu'ils ont une idée de ce que ça peut être une offre de solution par rapport à un problème donné. En Haïti, nous n'avons pas cette réalité-là. Alors, le gars, quand il était ministre, ou bien il était ministre de la justice, ou bien il était ministre de la planification, ministre des finances, ministre du trésor, il était ministre de la planification, ministre des TPTC, ministre, etc., etc., ministre des communications. Une fois qu'il n'est plus au pouvoir, il n'est plus dans l'engrenage du pouvoir. Il est exclu de toute sphère de pouvoir. Alors, puisqu'il n'est plus dans le pouvoir, alors il ne peut pas constituer une réserve pour le pays. Il ne peut pas être un conseiller de leur successeur. Voilà la réalité, hein. Vous comprenez, hein. Alors, quand vous avez des anciens présidents, des anciens ministres, des anciens premiers ministres dans le pays, des anciens directeurs, etc., etc., des anciens généraux de l'armée, des anciens colonels, des anciens militaires, quand vous avez ces gens dans le pays, une fois qu'ils ne sont plus au pouvoir, ils ne sont plus dans la sphère de pouvoir et ils n'ont plus d'influence. Pourtant, dans la réalité, c'est à ce moment-là qu'ils ont plus de pouvoir parce que, à ce moment-là, s'ils gardent des contacts avec des anciens, s'ils gardent des contacts avec des successeurs, il a encore la capacité de faire. C'est à ce moment-là qu'il développe le pouvoir. Voilà ce que le professeur Serge Petitfrère essayait de nous expliquer quand nous étions jeunes. Quand j'étais jeune, voilà ce qu'il essayait de nous expliquer. Ça m'a pris du temps pour le comprendre. Ça m'a pris beaucoup de temps pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire, pourquoi il nous disait qu'il n'avait pas de pouvoir quand il était ministre. Quand il était ministre de l'Éducation, je pensais que le ministre de l'Éducation pouvait décider et faire des choses. Mais sauf que lui, qu'est-ce qu'il avait appris? Il avait appris quand il était au pouvoir, il était tellement préoccupé par des problèmes urgents, à gérer des réformes, à gérer des programmes. Il n'avait pas de pouvoir. Il pouvait même pas embaucher quelqu'un. Vous comprenez, hein? Parce que celui qui embauche, c'est pas le ministre qui embauche, ce sont les directeurs, les administrateurs qui embauchent. Les directions des ressources humaines qui embauchent. Et s'il oserait suggérer des noms, on dirait que c'est de la partisanerie. Alors quand il n'était plus au pouvoir, puisqu'il avait placé des directeurs, à ce moment-là, il peut appeler n'importe quel directeur pour donner des postes à n'importe qui. Vous comprenez, hein? C'est là qu'il a le pouvoir. Et quand des ambassades essaient de contacter du monde, essaient d'avoir du monde pour faire avancer des projets, des programmes, etc., pour aller chercher des intérêts, alors on pourrait les appeler parce qu'on sait que ce ministre ou cet ancien ministre a encore des contacts. Et puisqu'il a des contacts, il peut appeler n'importe qui et... Étant donné qu'il n'a aucune responsabilité, il peut suggérer des choses, il peut demander des choses. Et il n'a aucune responsabilité envers la loi, envers personne. Est-ce que vous saisissez cette histoire? Alors, si vous comprenez tout ça, hein, vous allez comprendre ma démarche. Hein, vous allez comprendre pourquoi, quand je formule, ou bien que je lance ma bouteille à la mer, auprès des anciens dignitaires du pays, auprès des anciens dirigeants du pays, c'est parce que je sais qu'ils ont la capacité à comprendre l'ensemble des problèmes que traverse le pays. Et deuxièmement, parce que je sais également, puisqu'ils étaient au pouvoir, puisqu'ils ont eu le pouvoir, ils ont une vision large. Ils n'ont jamais cessé de penser au pays. Alors, on peut leur critiquer, on peut leur dire des choses. Ça, c'est le discours un petit peu, vous comprenez, hein? Ça, c'est tout le monde qui en fait. On en fait, nous autres aussi, on en fait. On peut se permettre de péter des bretelles comme ça, de faire des choses. Mais nous savons très clairement dans la réalité que ce sont des gens qui ont de grandes expériences, que ce soit parce qu'ils ont échoué ou parce qu'ils ont réussi. Alors, parce qu'ils ont réussi, parce qu'ils ont échoué. Ces gens-là, ils sont devenus une véritable ressource pour le pays. Alors, aujourd'hui, devant la crise, devant l'ensemble des crises qui traversent le pays, l'insécurité des bandits, hein, des viols, hein, des assassinats, vous comprenez, hein, des kidnappings, sans compter également les menaces que représentent pour la production nationale d'Haïti, des problèmes de santé également. D'ailleurs, je l'ai entendu, hein, il semblerait que le gouvernement, hein, par son service douanier, aurait découvert qu'il y aurait des pochettes de sang qui seraient rentrées dans le pays à partir de la frontière de la République dominicaine, avec la République dominicaine, et que ces pochettes de sang-là seraient contaminées par le sida. Alors voilà les peurs. Les peurs, voilà les problèmes que représentent, les menaces que représentent pour la santé publique du pays. Tandis que également, vous avez également sur la frontière des gens qui avaient l'habitude d'aller acheter en République dominicaine parce que c'était ça leur commerce, c'était ça leur entreprise, c'était ça leur job. Alors, du matin, du matin au lendemain, qu'est-ce qui est arrivé? Parce que la République dominicaine a décidé de fermer sa frontière. Ces gens-là se retrouvent sans un sou. Ils ont plus de travail, ils ont plus d'activité. Pourtant, ils faisaient brasser des affaires. Ils brassaient les affaires sous la frontière. Du matin au lendemain, ils se retrouvent sans activité. Alors voilà pourquoi que nous avons aujourd'hui encore, malgré la fermeture de la frontière, vous avez encore certains Haïtiens qui essayent de faire rentrer des produits avariés qui arrivent de la République dominicaine. Pourquoi? La réponse est simple, mon ami. On n'arrête pas le train qui marche. Pourquoi on n'arrête pas le train qui marche? En arrêtant la frontière, en fermant la frontière, en mettant des cadenas, des doubles cadenas, des triples cadenas, des centaines de cadenas à la frontière entre la République dominicaine et Haïti. Vous avez enlevé un emploi à ces gens-là. Sans compter également des Dominicains qui ont brûlé les marchandises des Haïtiens, qui avaient leur commerce au marché frontalier. Vous comprenez, hein? Ces gens se retrouvent sans un sou. Ils perdent leur argent, tandis qu'ils ont des enfants pour nourrir. De notre côté de la République d'Haïti, d'ailleurs, je le sais, et d'ailleurs, je me demande encore pourquoi aucun ministère du commerce, de la planification des finances et du trésor n'arrive pas encore à rencontrer ces gens pour leur offrir de l'aide du gouvernement. Parce qu'on devrait les dédommager, hein. En attendant que le gouvernement d'Haïti dépose des plaintes contre la République dominicaine en faveur des Haïtiens qui avaient des commerces en République dominicaine, que les Dominicains ont brûlé leur commerce parce qu'ils ont brûlé une section dans le marché frontalier qui se trouve à Dayabond. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Il n'y a personne qui a pensé à réparer les torts causés par le feu qui avait été mis au marché. Bon, on suppose que c'est des groupes qui ont mis le feu là-dedans pour pouvoir voler les marchandises des gens. Alors, ces gens qui ont perdu beaucoup d'argent, parce que c'était des commerçants qui faisaient des affaires avec la République dominicaine. Selon des estimations, ça avoisinerait plusieurs millions de dollars, soit 500 millions de dollars à chaque semaine. Comprenez, hein? 500 millions de dollars, peut-être à la frontière. C'était des marchés de 500 millions à 2 milliards de dollars qui brassaient sur la frontière. Ces gens qui ont perdu de l'argent et qui, du matin au lendemain, se réveillent sans possibilité de continuer à faire leurs transactions sur la frontière. Donc, ils n'ont plus de possibilité de faire du commerce. Ces gens-là ne sont pas dédommager. Voilà le gros problème qui est posé, hein. Il n'y a pas de dédommagement pour les gens qui faisaient du commerce. Le gouvernement d'Haïti ainsi que le gouvernement de la République dominicaine devraient réparer les gens, devraient dédommager les gens qui faisaient du commerce sur la frontière parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent. Et en fermant la frontière, qui a été une mesure prise de façon unilatérale par la République dominicaine. On devait compenser, on devait réparer, on devait dédommager ces gens qui se sont vus leur commerce arrêté rapidement d'un coup. Voilà le problème qui est posé sur la frontière et qui constitue une menace. Alors voilà ce que nous voulons dire là-dedans. Donc, de ce fait, ce n'est pas pour rien que l'on continue de voir des petits commerçants haïtiens qui ne cessent d'essayer de traverser avec de nouvelles marchandises à partir de la frontière. Bien entendu, du côté haïtien, puisque le commerce dominicain représente un danger de santé publique et également un danger pour la sécurité humaine en Haïti. Alors voilà, voilà le problème. On ne peut pas permettre aux gens de continuer à traverser des produits sans qu'il n'y ait pas d'abord des laboratoires qui étudient tous les produits qui arrivent de la République dominicaine, parce qu'il y va de la santé publique, de la sécurité sanitaire de la République d'Haïti. On ne peut pas se permettre de rouvrir la frontière sans qu'il y ait des accords, sans qu'il y ait des programmes, sans qu'il y ait des organisations, sans qu'il y ait des autorités qui étudient chaque produit qui devra rentrer désormais en Haïti. Parce qu'on ne peut plus faire confiance aux Dominicains, compte tenu de ce que l'on a constaté. Alors voilà le gros problème, on a posé le problème là-dessus. Alors voilà pourquoi, hein. Alors, quand vous avez des problèmes comme ça qui secouent le pays, des menaces qui arrivent de la République dominicaine, vous avez des bandits à l'intérieur du pays, vous avez de l'instabilité politique dans le pays, quand vous avez toutes les institutions qui sont fermées dans le pays, quand vous avez les écoles, le commerce qui n'arrive pas à se reprendre à Port-au-Prince et dans le département de l'Ouest, quand vous avez des problèmes du genre un peu partout, quand vous avez plus de représentants élus dans le pays, quand vous n'avez pas un gouvernement légitime et légal dans le pays. Tout cela met en sorte, fait en sorte que de graves dangers pèsent sur l'existence du pays. Voilà pourquoi, hein? Voilà, vous comprenez ce que je viens de faire. Je viens de vous justifier, hein? La raison pour laquelle que je fais appel aux anciens dignitaires du pays, aux anciens dirigeants du pays, les anciens présidents, les anciens premiers ministres, les femmes des premiers ministres, les premières dames du pays. Parce que je sais que ce sont des gens qui avaient des responsabilités hautement politiques dans le pays et qui connaissent, d'ailleurs si vous regardez bien, hein, sur le plan sécuritaire, vous avez un ancien général, Prosper Avril. Vous avez un ancien général, Raoul Cédras. Vous avez l'ancien général, Erard Abraham. Vous avez tout ce monde-là. Vous avez des anciens militaires comme Himmler Rebu, etc. Vous avez beaucoup de monde comme ça qui était dans le pays et qui avait des responsabilités également. Ils ont l'habitude, ils connaissent la sécurité. Ils peuvent offrir des solutions sécuritaires au pays. Voilà ce qui est important. Quand vous prenez par exemple Sophia Matelli, quand vous prenez Michel Bennett Duvalier, quand vous prenez Martine Moïse, ce sont des personnes qui étaient très impliquées au niveau social dans le pays. Michel Bennett avec les écoles qu'elle a ouvertes dans le pays. Michel Bennett qui intervenait dans les programmes sociaux. Michel Bennett qui intervenait au niveau de la santé des femmes, qui intervenait au niveau des hôpitaux. Alors vous avez des gens qui ont de l'expérience, qui peuvent offrir des solutions sur le plan social, sur le plan sanitaire et sur le plan sécuritaire, sur le plan social. Voilà, vous avez des gens qui peuvent le faire. Quand vous avez également Mildred Touyo qui était avocate. Quand vous avez également Martine Moïse, quand vous avez Michel Bennett qui connaissait les rouages, vous avez des gens, vous avez Sophie Martelly, vous avez des gens qui ont une compréhension du pays, qui ont une capacité à comprendre le pays sur ce niveau-là. Voilà pourquoi ce sont des gens qui peuvent, s'ils se rencontrent ensemble, s'ils se mettent ensemble, ils peuvent nous offrir des solutions durables pour le pays. Et ils peuvent comprendre également la réalité que peut vivre le Premier ministre Ariel Henry. Ils peuvent lui offrir une solution de sortie sans qu'il ne soit victime à son tour. On peut lui assurer une transition pour qu'il ne soit pas victime à son tour. Voilà ce qui pourrait le garantir et qui lui forcerait à accepter un changement. D'ailleurs, il l'a dit lui-même, dans l'accord de l'année dernière. Il l'avait dit lui-même dans son accord. Il avait dit que en 2024, il devrait être en mesure de remettre le pouvoir à un gouvernement élu. Sauf que il n'y a pas de conditions actuelles pour offrir un gouvernement élu en février 2024. De toute façon, il devra quitter et s'il ne quitte pas, il pourrait conduit le pays vers la catastrophe. Alors, il pourrait comprendre la nécessité de remettre le pouvoir et qu'il serait également en arrière, aux côtés des anciens premiers ministres, aux côtés des anciens présidents, aux côtés des premières dames, aux côtés des femmes des premiers ministres, pour pouvoir continuer à suggérer des solutions pour le pays. Alors voilà, hein, vous comprenez, hein, il va faire la transition d'un coup. Voilà pourquoi que j'ai proposé aux dignitaires de se rencontrer et de prendre l'initiative de formuler des propositions de solutions de sortie de crise et même de la présentation d'un gouvernement de salut public. Mais du coup également, c'est là que je vous conduis, hein. Du coup également, en formulant et en proposant un nouveau gouvernement de salut public, de véritablement un gouvernement d'union nationale, de concorde nationale. Du coup, nous réalisons une deuxième chose également. C'est que nous formulons déjà les conditions de d'une certaine réconciliation nationale entre tous les secteurs politiques du pays. Voilà ce qui est en arrière. Parce que quand vous avez un peu partout, juste regardez un peu partout, vous allez voir ce que j'ai dit, hein. Regardez le nombre de personnes sur les réseaux sociaux qui appuient, qui supportent, qui aiment Michel Bennett Duvalier. Regardez pour voir, c'est la même chose pour Jean-Bertrand Aristide, c'est la même chose pour Jocelyn Privert, c'est la même chose pour Michel-Joseph Martelly, c'est la même chose pour Laurent Lamothe, etc. Donc, ces gens-là, ensemble, si vous les prenez ensemble, alors ils peuvent rassembler, ils peuvent créer un consensus national. Voilà le consensus national qui serait nécessaire à une certaine réconciliation dans le pays. Alors, quand je formule ma demande, hein, quand je formule ma proposition d'inviter les dignitaires du pays. Alors, d'ailleurs, ce n'est pas nouveau, hein. D'ailleurs, je l'ai vu, hein. Je pense qu'il a été le seul à le faire. Joseph Michel Martelly, quand Michel Martelly a pris le pouvoir en Haïti, par l'intermédiaire de Sohan, il avait été rendu visite à l'ex-président Jean-Bertrand Aristide à Tabar. Déjà, il nous a annoncé quelque chose. Alors, donc, ma formulation, ma proposition retrouve également une certaine intention qu'avait Michel Martelly. Donc, en proposant quelque chose du genre, c'est que ça correspond à une certaine volonté de créer un climat de consensus national, de créer un dialogue national, de créer également une certaine unité nationale. D'ailleurs, il faut le remarquer, hein, ce que ça a produit, la construction du canal sur la rivière Massacre par les gens de Ouanaminthe. Les citoyens de Ouanaminthe, grâce à leur effort, grâce à leur décision, de creuser un canal sur la frontière entre la République dominicaine et Haïti, ça a créé un élan de solidarité entre tous les Haïtiens. Vous avez vu un peu partout, hein, des gens un peu partout, du Brésil, du Chili, hein, des États-Unis, du Canada, un peu partout, hein. Tous les Haïtiens apportent leur contribution pour la construction du canal. Parce que le canal est devenu le point de ralliement de tous les Haïtiens. Si les Haïtiens, avec la population de Ouanaminthe, arrivent à créer cette unité autour du canal, pourquoi ne pas espérer également que les anciens dirigeants d'Haïti arrivent à s'entendre, à se mettre ensemble pour pouvoir formuler ensemble des solutions pour sortir le pays de son marasme économique, de sa division, de l'insécurité, de l'illégalité, de l'illégitimité du pouvoir en place. Pourquoi ne pas créer cette possible réconciliation nationale? D'ailleurs, j'imagine très certainement qu'il n'y a pas un seul parmi eux, d'ailleurs, On n'a juste qu'à lire sur leur babillard des réseaux sociaux comment ils formulent tous des propositions de solutions au pays, au problème du pays. On n'a qu'à relire les textes de Michel Bennett Duvalier. On n'a qu'à lire les interventions et les propositions, les petites notes de Laurent Lamothe pour comprendre que le pays est notre pays, qu'ils ne peuvent pas se détacher d'Haïti. On ne peut pas cesser d'être haïtien. On ne peut pas cesser d'être haïtien. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous. On peut sortir un haïtien d'Haïti, mais on ne peut pas sortir Haïti des haïtiens. Voilà pourquoi que je pense qu'il est fondamental pour nous aujourd'hui et nécessaire pour nous aujourd'hui que tout le monde se mette la main à la pâte. Que tous les anciens dirigeants du pays, les anciens présidents, comme je vous le dis, hein, je n'enlève personne de la liste. Tous ceux qui étaient dirigeants du pays, ils doivent finir par comprendre qu'ils peuvent apporter leurs solutions aux problèmes qui frappent et qui déstabilisent le pays actuellement. Ils peuvent le faire. Et s'ils formulent des propositions, incluant l'actuel Premier ministre du pays, nous pouvons éviter le pays d'une évasion étrangère. Ce n'est pas parce que je ne tiens pas compte des groupes qui essayent de formuler leurs propositions dans le pays. Ce n'est pas parce que j'ignore leurs actions qui sont en train de mener dans le pays. Mais sauf que les solutions qu'ils proposent, le semblant, hein, vous comprenez, hein, le semblant, la semblant solidarité qui semble, l'unité qui semble dégager entre eux autres, ne suffit pas. Cette solidarité, cette union, cette unité ne suffit pas pour créer la réconciliation nationale. Bien sûr, on doit tenir compte d'eux autres. Bien sûr qu'on va pouvoir tenir compte de leur démarche. D'ailleurs, j'ai entendu l'ancien colonel Himmler Rebut qui essaye de rencontrer, qui a une certaine responsabilité de rassembler des organisations de Cité Soleil, des organisations populaires, mais ce ne sera pas suffisant pour rassembler tout le pays autour d'un seul projet commun, celui de sortir le pays de toutes les crises qui traversent le pays actuellement. Voilà pourquoi je pense que les anciens dirigeants du pays ont encore une dernière chose à faire pour le pays. Avant de partir, je ne sais pas qui va partir à la fin de l'année. Je ne sais pas qui va partir au début de l'année prochaine ou à la fin dans les prochains mois, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochaines années. Mais ils ont la possibilité aujourd'hui de faire quelque chose. Pourquoi pas que Michel Bennett se mette à appeler tous les anciens dirigeants pour pouvoir les rencontrer, que ce soit leur donner des rendez-vous, que ce soit prendre des rendez-vous dans le pays. Pourquoi pas que Michel Martelly se mette à appeler tout le monde, comme il l'a déjà fait avec Jean-Bertrand Aristide, quand il est allé voir Jean-Bertrand Aristide, quand il a pris le pouvoir. Pourquoi il ne se met pas au service du pays pour rassembler tout le monde? Je pense qu'il est assez ouvert d'esprit pour pouvoir inviter tous les autres dirigeants du pays. Je suppose qu'il connaît, il peut avoir le téléphone de tout le monde. Pourquoi il n'appelle pas tout le monde pour les donner rendez-vous et prendre rendez-vous dans le pays pour marquer un tournant décisif dans le pays. Un tournant décisif pour la solidarité, pour l'unité du pays. L'heure est venue pour que nous fassions encore une nouvelle unité, une nouvelle fraternité entre tous les Haïtiens. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, nous avons besoin de cette fraternité entre tous les Haïtiens pour que tout le monde se mette ensemble pour pouvoir offrir des solutions au pays sans que personne ne soit victime, sans que des étrangers soient obligés de venir nous dicter ce que nous devons faire. D'ailleurs, j'ai entendu le secrétaire d'État des Américains Anthony Blinken qui commence à proposer des solutions qui est en train de pousser les Haïtiens à aller vers une solution pour résoudre les problèmes du pays. Avant que ce soit eux qui nous dictent des choses, faisons-le nous-mêmes. Et je crois que nous avons la possibilité de le faire entre nous. Si tous les dirigeants haïtiens, si l'ex-premier ministre Jean-Max Bellerive, l'ex-premier ministre Laurent Salvador Lamotte, se mettent à appeler tout le monde. Ils rassemblent tout le monde. Peu importe qui prend la décision, peu importe qui prendra la décision d'appeler tout le monde et de réunir tout le monde. Je suppose que ce serait la bonne chose à faire. Je vais souvent avec mon intuition. Hein. Je les ai tous regardés. Il n'y a pas un seul parmi eux qui était les anciens dirigeants pendant ces dernières années que je n'ai pas croisé à un moment ou à un autre dans ma vie. Je les ai tous croisés. Je les ai tous rencontrés, je les ai tous parlé, même si ils sont rares à se souvenir du petit gars qu'ils ont rencontré. Mais je sais d'une chose. Je vais avec mon intuition. Et lorsque j'ai regardé, j'ai essayé de vérifier sur toutes leurs pages. J'ai essayé de voir, d'analyser et de comprendre qu'est-ce qu'ils ont formulé, qu'est-ce qu'ils ont fait à travers leur parti politique, à travers leurs propositions, à travers leurs messages, un peu partout publiés sur les réseaux sociaux. Je découvre une chose. Ils peuvent à nouveau s'entendre. Ils peuvent s'entendre entre eux. Et s'ils arrivent à s'entendre, voilà ce qui va permettre au pays de se reprendre. Nous avons besoin de cet élan de solidarité des Haïtiens. Nous avons besoin maintenant que tous les Haïtiens se mettent ensemble. Faisons-le pour le pays. Et vous êtes capables. Il n'y a personne qui peut vous empêcher de le faire. Faites-le.